La dernière fois que j'étais allée au Japon, c'était au printemps 2012 à l'occasion du tournage de Amélie Nothomb, Une vie entre deux eaux. Pendant 10 jours, l'équipe de Laureline Amagneux m'avait filmée à Kyoto, à Kobe, à Tokyo et à Fukushima. Il s'agissait d'un reportage sur mes relations avec le Japon, qu'elles soient passées ou présentes. L'exercice s'était révélé aussi passionnant que difficile. Le plus dur consistait à éprouver des émotions aussi intenses que mes retrouvailles avec ma nounou sous le regard ininterrompu de la caméra. Cela avait eu le mérite imprévu de m'interdire de m'effondrer. 11 années s'étaient écoulées depuis, et non les moindres. Il y avait eu la pandémie, ensuite la guerre d'Ukraine avait éclaté, mon père était mort. À mon insu, ces épreuves avaient creusé en moi une souffrance dont je ne tenais pas compte. « Retourner au Japon te réconfortera », me dis-je. L'argument ne porta pas. Ce qui m'obnubilait, c'était l'idée d'y aller avec Pep. Non, d'être la guide de Pep sur le sol nippon. Je n'avais jamais été la guide de personne. Guider Pep me paraissait terrifiant. C'est peu dire qu'il s'agit d'une amie exigeante. Mais le plus effrayant, c'était de jouer ce rôle au Japon. C'est mon pays préféré au monde, ma terre sacrée. La simple évocation de son nom suffit à me mettre en transe. Un tel amour ne me donne aucune compétence particulière et m'enlève tout droit à l'erreur. « Tu parles la langue ?» dit Pep. « Oui, non. J'ai parlé cette langue. Je sais qu'elle est toujours là. Enfouie sous des décombres innombrables. Lors de mon dernier séjour au pays du soleil levant, j'avais senti des wagons de japonais me revenir en mémoire chaque jour. Pas forcément les mots les plus utiles ni les tournures les plus pratiques, mais les locutions auxquelles je m'étais attachée pour des motifs sentimentaux. Le japonais est ma langue fantôme. Jusqu'à l'âge de 5 ans, je l'ai parlé couramment. Ensuite, j'ai quitté le pays et j'ai oublié la langue. Quand j'ai eu 21 ans, je suis revenue au Japon et j'ai réappris. En découvrant que je n'avais pas complètement escamoté un langage d'enfant qui avait été le mien. J'ai eu une longue et importante liaison avec un jeune tokyoïte qui se délectait de mon curieux sabir. Et puis j'ai travaillé dans une entreprise nippone à laquelle mes singulières facultés linguistiques ont inspiré une méfiance croissante jusqu'au moment où j'y ai reçu l'ordre le plus abstru qui fut « oublier le japonais ». J'ai essayé d'obéir. La débâcle professionnelle qui s'est ensuivie m'a convaincue de tourner la page. J'ai quitté Tokyo où j'avais 2 ans plus tôt décidé de vivre. Retour en Belgique. À 25 ans, je découvre un nouveau pays, la France. Les autochtones m'accueillent bien, je m'acclimate. Le japonais disparaît de ma mémoire, non sans laisser une trace incongrue que je préfère ignorer. Il me faudra attendre l'âge de 45 ans pour rejoindre l'Empire, à la faveur du documentaire de Laureline Amagneux, et m'apercevoir que j'ai désobéi aux ordres de l'entreprise. Je n'ai pas oublié la langue. Tout se passe comme si le japonais était une marée. À mesure que je m'éloigne, descend la mer des mots. Il suffit que je revienne et la marée remonte. Mon bateau est en eau. Mai 2023, c'est marée basse. Ce n'est pas la première fois, mais j'ai quand même peur. Et si j'avais perdu la clé de cette langue? Le bon côté de Pep, c'est qu'elle ne me laisse pas le choix. Tu n'as qu'à y arriver. Elle me met la pression. Quand j'anticipe ce voyage, je n'endors plus. La simple idée d'acheter des billets de train me semble au-dessus de mes forces. Lorsque je vivais au Japon, combien de fois m'étais-je acheté des billets de train? C'était si facile que je ne me rappelle plus comment je procédais. Si je partais seule, je n'aurais pas peur. J'exulterais même à l'idée du côté aventureux de l'affaire. Mais devoir guider Pep me semble au-dessus de mes forces. Tu es de mauvaise foi. Seule, tu ne partirais pas au Japon, me dis-je. C'est vrai. Je suis devenue cette personne qui ne prend plus l'initiative d'aller au Japon. Loué soit Pep qui m'y contraint. Samedi 20 mai. L'avion quitte Roissy-Charles-de-Gaulle à 13h. Je découvre que le vol a rallongé. Auparavant, Paris-Osaka durait 11h. À présent, 13h30. À cause de la guerre en Ukraine, l'avion ne peut plus survoler la Russie comme jadis. On passe par le sud, Turquie, Kazakhstan, Chine. À côté de moi, Pep psychote. Tu crois que je vais supporter un vol aussi long? Ah, aucun problème. Je suis asthmatique. Moi aussi. Je suis allergique aux oreillers de plumes d'Air France. Je donne les coussins au steward. Tu vois, le problème a disparu. Je vais avoir une crise d'angoisse. Je connais assez Pep pour savoir qu'elle risque en effet un pic d'anxiété. Je lui dis ce qu'elle a besoin d'entendre. Nous pouvons encore descendre de l'avion et annuler le voyage. Une part de moi espère qu'elle prendra cette décision. Pep respire un grand coup. Non. J'attends depuis toujours d'aller au Japon. Je dois avoir ce courage. Tu verras, cela va très bien se passer. L'avion décolle. Aller à Jakarta Est. En vol, j'ai tendance à ne rien faire. Si je suis assise à côté du hublot, je regarde le ciel et la terre sans discontinuer. Dans le cas contraire, je pratique le non-agir. Lire? Impossible d'atteindre la concentration requise. Écrire? Seulement quand ce sera le petit matin. Et puis, pourquoi me justifier? La vie ne m'offre pas tant d'occasions de faire niente. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Alors occupe-toi de moi. Que veux-tu dire? Je vais avoir une crise d'angoisse. Poursuis Pep. Aide-moi! N'ayant aucune idée de l'attitude à adopter, je commence à parler au hasard. L'avion est plein à craquer. C'est extraordinaire. Dommage que nous n'ayons pas un hublot à côté de nous. Sinon, je te montrerai Mo. Ce serait enthousiasmant. À Paris-Osaka, on peut comprendre que ce soit plein. Paris-Mo, c'est tout aussi complet. Essaye les trajets les plus improbables. Mo-Virzon, Compiègne-Vendeuvre. C'est toujours complet. Mais il y a peu de mystères aussi profonds. Où vont ces gens? Quel besoin ont-ils de se déplacer? Ne sont-ils pas mieux chez eux? En quoi Virzon vaut le détour? Vendeuvre n'est-elle pas aussi ennuyeuse que Compiègne? On se sent mal placé pour les juger. Car si l'on s'en indigne, c'est précisément parce que l'on est avec eux dans le mot Virzon. Ah oui, mais moi j'ai une bonne raison, c'est que... Et là, soudain, la nullité de toute motivation apparaît. C'est pourquoi se déplacer est une activité dangereuse qui met en lumière la vacuité de l'existence. Qu'est-ce que tu racontes? Au moins, en avion, on a des possibilités. Tu vois, il y a un écran, on peut choisir par exemple un film. Hypnotisé, Pep me laisse pianoter sur son écran. Parmi les films proposés, il y a « Revoir Paris ». Ce titre me scotche. J'accorde mon écran avec le sien. On le regarde ensemble, d'accord? Dont acte. Le film s'avère terrible et il est question des attentats du 13 novembre 2015. Mon ami confie son angoisse au personnage interprété par Virginie Efira et oublie la sienne. Mission accomplie. Une sympathique portugaise nous sépare du hublot. Comme elle dort, je prends l'initiative de soulever le volet. Je viens d'avoir fini d'écrire. Le matin peut se décréter. Il faut reconnaître que dans ma vie, l'aube est souvent purement mentale. Le choc n'en est que plus vif en ce 21 mai de découvrir une aurore véritable. Ce moment que, paradoxalement, je rate toujours pour ce motif que je suis ensevelie sous l'écriture. L'écran indique que nous survolons la Corée du Sud. J'ai beau être 100% analogique, j'apprécie ces GPS. Surtout quand l'échelle est grande. Se rendre compte que le minuscule appareil passe au-dessus de l'Azerbaïdjan ou du Sichuan, cela produit son effet. Si l'on n'est pas assis à côté du hublot, je ne trouve pas absurde de rester l'œil fixé pendant 12 heures sur l'image. Ma voisine a le sommeil lourd, je peux me coucher sur elle sans la déranger. C'est ainsi que je peux convertir le tracé du GPS en son équivalent paysager. Il est rare de disposer d'une possibilité aussi immédiate. Après la Corée, il y a la mer. Mon cœur se met à battre la chamade. J'éteins l'écran. Je ne veux plus avoir affaire qu'au réel. Toujours allongée sur ma voisine, je regarde par le hublot avec l'avidité du pèlerin. Soudain, j'aperçois le rivage. La voix étranglée d'émotion, je commence à gémir. Le Japon, je le vois, il est là. Larmes de joie. Pep ricane. Tu as l'air du Corse dans Astérix quand il sent l'odeur de son île. Elle a raison. Comment ai-je pu tellement répugner à ce voyage alors que la simple vision du sol nippon me met à ce point dans un état second? Je m'efface afin que Pep puisse jouir de la vue. Elle peut toujours se moquer, elle semble aussi bouleversée que moi. Pour elle, ce sera la première fois. Je la jalouse un peu. Ce doit être prodigieux de découvrir le Japon à l'âge adulte. À y réfléchir, ma répulsion envers les départs doit beaucoup à l'Empire. Le premier départ de ma vie consista à quitter le Japon à l'âge de 5 ans. Cet arrachement me traumatisa. Par la suite, j'ai connu tant et tant de départs difficiles. Outre leur douleur intrinsèque, je les ai toujours ressentis comme des répétitions de la tragédie primitive. Quitter le Japon, l'archipel idéal, la terre où mon existence avait un sens. À l'époque, nous avions quitté le Japon pour la Chine de Mao, autant dire pour l'enfer. Mais même si nous avions troqué l'Empire contre Citer, je pense que ma souffrance eût été équivalente. Peu importait où nous allions, nous désertions le Japon. Cet énoncé suffisait. Depuis cet arrachement initial, j'étais retournée au Japon. J'avais tenté de m'y installer pour toujours. Cela n'avait pas marché. J'avais fini par m'enfuir. Un tel échec n'avait rien changé à mon amour. J'étais toujours aussi éperdument amoureuse de ce pays. Sans doute, ce schéma de base me conditionna-t-il pour la suite. Chez moi, l'amour se fiche du résultat. L'éloignement ne correspond en rien à une renonciation ou à un attiédissement de ma ferveur. Pep doit lire dans mes pensées puisqu'elle me dit « Tu ne vas pas recommencer avec ta nostalgie, n'est-ce pas ?»«
Tu as raison. »
La nostalgie, je ne m'y étais déjà que trop adonnée. Il s'agit de ma pathologie invétérée. Il faut donc que je lui résiste. N'était-il pas temps que je redécouvre le Japon sans être obsédée par ce que j'y avais vécu? Mon pèlerinage sur les traces de mon passé nippon, je l'avais effectué au moins à 2 reprises. Pep voulait que je remette mon compteur à 0. C'était un bon plan. En serais-je capable? Atterrir à Osaka provoque toujours une peur identique. L'avion pique vers la mer. On se demande si le pilote ne cherche pas un suicide collectif. La piste surgit à la dernière seconde. Quand l'appareil se pose, les passagers respirent un grand coup. Les formalités sont au moins 2 fois plus longues qu'avant. Nous avions pourtant rempli les formulaires préalables. Nos réponses ne conviennent pas. Après avoir enfin satisfait les autorités aéroportuaires, nous prenons le train pour Kyoto. Il s'agit d'une navette Hello Kitty. Je n'en crois pas mes yeux. Pep exulte. Y entrer permet de ne plus subir la décoration rose bonbon et l'omniprésence de Kitty. Le trajet dure plus d'une heure. Je ne la vois pas passer. Mon ami scrute les moindres détails de la banlieue d'Osaka et puis de ce Kansai plus urbain que rural qui mène à l'ancienne capitale. Je comprends son ébahissement. Rien ne lui paraît vide de signification. C'est dimanche, il doit être midi. Est-ce pour ce motif que les rues sont désertes? Ni voitures, ni êtres humains. Parfois, une rizière entre 2 immeubles déroute le regard. À Kyoto, nous avons un peu de mal à trouver l'auberge traditionnelle que Pep a réservée. La ryokan en question ne nous autorise pas encore à nous installer. Il est trop tôt. Nous laissons nos bagages à la réception et partons à l'aventure.